Les conférences du funambuliste. Une série autour de la question des réparations. Première conférence, 3 mars 2020. Les invités sont Hajer Ben Boubaker et Daoud Boumaye. Et le titre s'intitule « Se réparer collectivement ». Un très très grand merci à Nasser Akenif Soulamas de nous inviter et nous accueillir à l'Université Paris 8 à Saint-Denis.
Bonsoir. Désolée d'interrompre les conversations et l'effervescence ambiante. Merci beaucoup d'être venu à Paris 8 en ce début de soirée. C'est une heure improbable, mais c'est l'heure à laquelle les braves se retrouvent. Et voilà, nous voici réunis. Alors je tiens tout d'abord à dire mon grand plaisir, presque mon honneur, c'est un moment important que de commencer à recevoir pour une série de séminaires qui j'espère durera aussi longtemps que possible. The Funambulist, son rédacteur en chef, j'ai nommé Léopold Lambert, et nos deux premières invitées, ouais. Donc Hajer Ben Boubaker et puis Daoud Moubaye. Et je tiens à dire que c'est des circonstances exceptionnelles et qui sont en parfaite harmonie avec la démarche de ce soir, puisque en fait ces séminaires, pour le moment, et je ne sais pas jusqu'à quand, s'inscrivent dans les luttes et les mobilisations qui sont en cours à Paris 8 et au-delà. Donc lorsque Léopold m'a proposé cette thématique et m'a proposé que vous l'incarniez toutes les deux pour la première séance, il m'a semblé que c'était une rencontre nécessaire au moment où on se trouve, c'est-à-dire au moment où on a le sentiment que les luttes sont en train de s'essouffler, que peut-être que le sens des mobilisations est plus difficile à trouver ou qu'il se brouille au fur et à mesure des intrigues et des coups de force auxquels nous assistons, et que donc c'est tout particulièrement important peut-être de prendre ses distances, de reprendre son souffle et de commencer à réfléchir collectivement à la façon de se maintenir ensemble, en vie, en énergie, et de parvenir à surmonter pas seulement ce qui se joue actuellement, mais au-delà d'autres épreuves qui pourraient surgir. Donc la thématique de la réparation et surtout de se réparer, c'est-à-dire d'arrêter de considérer que ça doit venir d'une instance quelconque qui serait supérieure, mais bien de celles et ceux qui sont directement engagés dans cette expérience de la réparation, et que couper les ponts d'une certaine manière avec une forme de dépendance à l'égard de celles et ceux qui pourraient se sentir autorisés à en parler et à agir. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous donne la parole ce soir pour commencer à nous parler de ça, pour échanger avec vous ensuite. Et puis je pense que c'est à vous d'organiser la prise de parole et le temps de parole. Moi je suis là surtout pour être la force accueillante, aussi bienveillante que possible. Et j'ai oublié de dire que je m'appelle Nasira Ghanif.
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Un grand, grand, grand merci d'être là ce soir pour cette première conférence d'une série qu'on essaye de pour elle d'être mensuelle. Donc là, on a les trois premières qui sont annoncées, mais normalement, on continuera. Un très grand merci à Nasser Ghanif de nous recevoir ici ce soir. Et donc nous, Nasira a eu la gentillesse de me citer. Vous avez un deuxième tiers du funambuliste qui est Caroline. Voilà, je ne voyais pas. Caroline Honorien qui est à l'arrière et qui sera à ma place pour la prochaine conférence où on aura nos amis de Case Rebelle qui viendront. C'est une très grande joie d'être ici avec Hajer et Daoud Et Nassira, on a un peu l'impression d'être en famille. Et donc, Hajer et Daoud auront beaucoup de choses à nous dire sur une, autour de donc cette question d'aujourd'hui et de se réparer, virgule, collectivement. Et mais donc, juste pour commencer un tout petit peu, je vais vous faire une toute petite intro. Alors déjà pour effectivement répéter que on se situe en solidarité avec la grève qui se passe ici à Paris 8 et bien évidemment le mouvement à l'échelle nationale et même internationale si on compte les colonies départementalisées dans ce mouvement mais plus largement le mouvement contre le néolibéralisme. Et aussi, j'ai une petite pensée pour nos camarades sans papier qui occupent en ce moment le chantier du siège du monde, et qui vont commencer leur sixième nuit d'occupation ce soir. Ils sont un peu fatigués, et donc on pense bien à eux et on espère que c'est la dernière nuit, que demain ils obtiendront satisfaction par le biais de réparations justement de EFAG qui les a exploités de manière absolument honteuse ces derniers mois. Et donc je vous ai parlé des deux premiers tiers du funambulisme. Le troisième tiers, elle n'est pas avec nous, c'est Margarida Nzuzi-Wako qui habite à Copenhague. Et donc le noyau dur de ce projet, et c'est nous trois pour le moment, mais on a aussi notre équipe accompagnante d'anciennes du magazine qui sont Noël Geller, Flora Ergon et Nadia El-Hakim qui peut-être que Noël est là ce soir, je sais pas. Non, pas encore, peut-être tout à l'heure. Voilà, bon, je vous fais une toute petite intro sur ce que c'est que le funambulisme, parce que peut-être que certaines et certains d'entre vous savent pas ce que c'est. En l'occurrence, c'est principalement un magazine qui sort tous les deux mois, alors un magazine anglophone. Mais justement, je reviendrai sur ce jonglage entre l'anglophone et le francophone bientôt. Et donc c'est un magazine qui à la base essaye d'articuler des perspectives spatiales, parce que moi à la base je suis architecte de formation, donc c'est un peu ma sensibilité, comme plusieurs d'entre nous dans l'équipe. Et donc une perspective spatiale sur les luttes anticoloniales, antiracistes, queer, féministes. Et donc on sort un nouveau numéro autour d'une thématique tous les deux mois. Et aujourd'hui on sort le numéro 28, donc ça fait déjà 5 ans. Et donc voilà, vous pouvez, en l'occurrence c'est celui-ci qui s'appelle Nos batailles. Ça fait un peu balavoine comme ça en français, mais en anglais c'est peut-être que c'est un peu plus sérieux. Et en l'occurrence c'est une collaboration avec une jeune architecte de Johannesburg, Rohan Mudley, qui a un talent absolument monstre, qui a donc représenté 6 batailles historiques révolutionnaires avec des dessins un petit peu comme ce que vous avez sur la couverture. Juste pour vous montrer un peu comment le magazine s'organise à l'intérieur en général, on commence par une section qui a rien à voir avec le thème, qui est un peu des nouvelles des luttes. Donc là, en l'occurrence, dans ce numéro-là, on a quelque chose sur la solidarité qui se passe avec les peuples autochtones du Canada en ce moment, qui réussissent à mettre l'État à mettre un genou à terre de l'État de la colonie de peuplement. Alors je sais que Nassira n'aime pas trop le mot colonie de peuplement, mais on aura peut-être l'occasion de rediscuter la colonie de peuplement qu'est le Canada. On a un texte, donc ça c'est de Deb Cowan. On a un texte de Bassem Saad et Edwin Nasser sur la révolution libanaise en ce moment. Un texte de Sarah Versailles sur la révolte contre les nouvelles lois islamophobiques de l'État fasciste du BJP de Modi en Inde. Et un très beau texte de Sarah Carmona qui a été traduit du français par Rafi Wofsi, excusez-moi, en plus je sais qu'il est peut-être dans la salle, qui est donc un plaidoyer pour que la lutte rom soit aussi considérée comme une lutte décoloniale. Et donc après on a le dossier principal lui-même avec donc ces dessins de Rohan Mudley sur ces 6 batailles que je vais pas rentrer dans les détails parce que j'avais pas prévu de parler trop longtemps dessus. Et donc comme je vous disais, On essaye, c'est assez récent, mais on s'est vraiment posé la question, et justement là, pas juste à trois, mais vraiment à plusieurs, autour du funambulisme, de comment est-ce qu'on peut un petit peu aussi, bien que notre spécialité, entre guillemets, c'est de construire des solidarités entre lutte mondiale, et que vis-à-vis de notre utilité peut-être directe pour les luttes ici, notamment les luttes antiracistes et anticoloniales, c'est de les traduire, de mettre au courant toute une communauté internationale de militants et de militantes sur ce qui se passe ici. Mais on avait envie de faire un petit peu plus. Et du coup, on commence deux initiatives. La première, c'est cette série de conférences en français sur les réparations. Et j'y viendrai dans une seconde. Et l'autre, c'est un petit podcast, alors une mini-série. Et Dawood était notre première invité. Donc il est en ligne si vous voulez l'écouter. À propos de diaspora en France, dont peut-être on gagnerait à bien plus parler. Bien sûr, il y a toujours des gens qui font le job et qui en parlent déjà, mais peut-être un petit peu participer à cet effort d'en parler plus. Et puis étendre nos imaginaires politiques, nos imaginaires des luttes, sachant que chacune de ces diasporas a son imaginaire bien à elle, et qui est d'une richesse dont on gagnerait amplement à s'inspirer dans le milieu militant. Voilà. Et donc cette série sur les réparations, elle est cruciale elle est cruciale pour beaucoup de raisons, mais effectivement, comme Nassira l'a dit, et comme Hajer et Dawood l'ont dit dans la littéralement la première phrase de leur petit texte qui résumait leur intervention, c'est: est-ce qu'on peut penser les réparations autrement que de la manière dont on y pense aujourd'hui, à savoir une espèce de simulacre de réparation de la part d'États coloniaux, et plutôt est-ce qu'on peut pas essayer de se passer de ne même pas prendre ça en compte et se penser les réparations autrement. Et alors j'ai un exemple qui est absolument ancré de manière extrêmement forte en tête. Je vous en parle deux minutes et puis après je laisse la parole. Mais c'est un exemple qui vient du monde kanak. J'ai toujours beaucoup de mal à en parler, déjà parce que c'est très émotionnel, et à la fois c'est une conversation qu'on a beaucoup avec Nassira. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on en parle, en fait, on abîme un petit peu ce qu'on décrit, et on se sert de ce dont on écrit, ce qui met quand même dans une situation assez problématique politiquement. Mais je vais essayer quand même de vous le résumer de manière la plus la moins abîmante possible, on va dire. Donc, vous connaissez peut-être Jean-Marie Tjibaou, qui était le président du gouvernement provisionnel de Kanaky, donc le gouvernement en lutte contre le colonialisme français durant les années 80. Lui et Yawene Yawene, qui était le numéro 2 de ce gouvernement provisionnel, ont été assassinés le 5 mai 1988. 89, excusez-moi, par Jubilee Wea, qui était un autre militant et un autre représentant de la lutte kanak, d'Ouvea, là où avait eu lieu le massacre exactement un an auparavant, le massacre colonial de 19 militants kanak par la gendarmerie et l'armée, enfin par le GIGN, excusez-moi, et l'armée française. Donc on a une situation qui est absolument, qui est criante de colonialisme. Néanmoins, l'exemple que nous offre cet exemple a rien, enfin n'implique à aucun moment l'État français, à savoir que combien de temps, pardon, 15 ans plus tard. Ce que les Kanaks appellent un chemin coutumier a été fait. La tribu de Jubilee Wea est entrée en contact a commencé un processus avec la tribu de Yawene Yawene à Marais, et la tribu de Jean-Marie Tjibaou sur la Grande Terre de Tiendanit, pour commencer le pardon. une coutume de pardon. Donc ça a pris des mois et des mois. Et finalement, en 2004, a eu lieu cette coutume de pardon, qui est donc une cérémonialisation de cette demande de pardon et cette réception de pardon. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et encore une fois, je me rends bien compte en parlant que j'ai du mal. Mais c'est quelque chose qui est absolument dont il faut prendre la mesure, qui est selon moi vraiment un des meilleurs exemples de pratiques décolonisantes, parce que en fait la douleur et le deuil et les sentiments de vengeance qui pouvaient éventuellement naître de cette situation étaient tous liés au colonialisme. C'était le fait que Jubilee Wea avait pensé que le Yawene Yawene et Jean-Marie Tjibaou avaient été trop linéants avec l'État français. Et donc tout ça était lié au colonialisme. Et donc la réparation elle-même n'impliquait à aucun moment l'État français, en fait. Donc excusez-moi, mais c'était juste important pour moi de commencer avec cet exemple, cette série. Mais je tâcherai d'en parler mieux la prochaine fois que je m'exprimerai dessus. Mais voilà, bon, bref. Je laisse la parole à Hajar Ben Boubakar et Daoud Boumaye pour donc cette première intervention qui, comme je le rappelle, s'appelle « Se réparer collectivement ». Un grand merci à vous deux d'être là.
Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureuses toutes les deux d'être présentes pour le lancement des conférences The Funambulist en français, parce que tout d'abord, ça faisait longtemps qu'on les attendait. On suit depuis déjà quelques années, Daoud et moi, The Funambulist. On a pu y contribuer chacune. Donc c'est un honneur en fait d'être là ce soir pour le lancement de cette conférence. Donc on remercie Léopold pour cette invitation, puis aussi pour tout le travail de lutte et l'amitié qu'on partage. On remercie Caroline qui est donc derrière, qui fait partie de l'équipe de The Funambulist, et évidemment Nassira Ghanif de nous accueillir, et aussi Nassira Ghanif pour toutes ses recherches et ses prises de position qui sont importantes personnellement pour moi dans mon parcours, mais je pense aussi pour plusieurs personnes dans cette salle. Donc c'était important de commencer par là. Et aussi on voudrait saluer, profiter de ce début de séance pour saluer la lutte des étudiantes et des étudiantes Paris 8 qu'on suit de près, parce qu'on a des proches qui en font partie, parce qu'on a aussi été des étudiantes précarisées et précaires dans l'enseignement supérieur français, et on voudrait donc saluer tout ce mouvement qui a lieu actuellement à Paris 8, qui est vraiment, on n'a pas fait nos études à Paris 8 personnellement. Donc on se rend bien compte aussi de ce que Paris 8 peut représenter en termes d'évolution dans les luttes, et notamment dans les luttes de nos communautés racisées, comme on dit. Donc je voulais saluer ces étudiantes et ces étudiants dont je reconnais certains, et particulièrement ceux du master genre, qui sont vraiment en première ligne. Donc voilà pour le commencement.
Un salut pour les étudiants de P8. Et voilà, nous on suit aussi de près et de loin en même temps la mobilisation qui se passe ici. Et vraiment juste un grand respect à vous, on est ensemble. Et voilà. Pour commencer, peut-être présenter pourquoi on est ici pour parler de se réparer collectivement. Nous, Hajar et moi-même, on est des militantes. On est des militantes antiracistes, on est des militantes féministes aussi. Et en fait, la question des réparations, c'est une question qu'on se pose souvent. Et au-delà de ça, c'est la question de la classe sociale qu'on essaie d'articuler avec les rapports de race et de genre, dans nos analyses et aussi dans nos combats. En tant que militante. Et c'est vrai que la question du matérialisme, elle s'est posée parce que on se rendait bien compte que dans les milieux dans lesquels on évoluait, je parle de milieux militants, cette question-là, la question de la classe, des solidarités, de la réparation, elle était un peu, voire beaucoup, éludée. Tout simplement parce que aujourd'hui, dans les militants, il y a beaucoup de personnes qui sont issues de la petite classe moyenne. Il y a aussi le fait qu'on est tous ou plus ou moins des personnes qui sont, ce qu'on dirait en sociaux, des transfuges de classe. Et la question, en fait, de la classe sociale, souvent, elle est pas correctement articulée ou pas assez articulée. Et nous, ça nous pose problème parce qu'on vient de milieux précaires. Et en tant qu'étudiante, on a été confronté à la précarité. Et même maintenant qu'on n'est plus vraiment étudiante, on est, on galère. et donc voilà, c'est pour ça que cette question-là, c'est une question qui se pose. On en discute beaucoup entre nous, parce que on est aussi amis. On se connaît depuis, on marche ensemble depuis quelques années aussi. Et ouais, donc c'était vraiment ça, je pense, remettre la question du matérialisme au cœur de notre analyse politique. Et donc, comme on est militante, la théorie, ça suffit pas. C'est aussi dans notre pratique qu'on essaie de mettre ça en œuvre.
Ouais. Comme dit Daoud, c'est effectivement des questions qui se sont posées. On a toujours, ça fait des années qu'on milite, d'ailleurs qu'on milite ensemble, et c'est aussi en tant que militante qu'on s'exprime sur cette question parce que on constate effectivement que dans l'antiracisme politique actuel, la question de la classe peut être mise de côté ou en tout cas pas investie à la manière avec autant d'énergie que d'autres aspects qu'on peut travailler, notamment genre et race, évidemment. Ce constat, il est parti de effectivement de nous-mêmes, notre propre remise en question en tant que militante, parce que on n'a pas nécessairement dans nos parcours toujours privilégié un point de vue matérialiste, ou du moins on l'a pas toujours investi comme on aurait voulu l'investir. Et se réparer collectivement, pour nous c'était important de commencer de discuter avec vous de cette thématique là déjà, parce que on sait qu'il y a les excellents cases rebelles qui vont être en deuxième séance de la conférence de Funambulistes, peut-être sur un aspect plus institutionnel de ce qu'est la réparation, c'est-à-dire la réparation coloniale, qu'est-ce que les pays, les anciens empires coloniaux doivent aux peuples qu'ils ont colonisés et mis en esclavage. Et donc la dette est effectivement très lourde. Elle est pas seulement de l'ordre du symbolique, c'est-à-dire des excuses, elle est de l'ordre en fait de payer une dette matérielle envers ces personnes qui ont été exploitées, dont les ressources aussi, le territoire a été exploité, ou la force physique a été exploitée. Et par ailleurs, cette dette ne cesse de s'alourdir au vu des conditions de vie des personnes issues de cette histoire, c'est-à-dire des descendants des peuples colonisés et des personnes mises en esclavage. Donc, il y a aussi la question de la réparation vis-à-vis de l'injustice que nous subissons aussi actuellement, nous, en tant que descendants de coloniser pour Daoud et moi, dans cette société. Donc se réparer collectivement, c'était pas pour nous la question de penser la réparation de ce que l'État français, en l'occurrence pour nous, vu que je suis tunisienne et Daoud comorienne, donc c'est notamment l'État français qui nous doit quelque chose. Puisque pour l'instant, comme l'indiquait le texte de présentation, si vous l'avez lu, celui qui a commis l'injustice n'est pas autour des tables de négociation avec nous pour qu'on puisse statuer de ce qu'il nous doit. Donc, on s'est questionné sur la question de la réparation pour nous-mêmes et par nous-mêmes, c'est-à-dire au sein de nos communautés respectives. Comme indiqué, moi, ma communauté, c'est la communauté maghrébine arabe, Daoud, la communauté noire, et à la fois aussi, dans un sens plus large, c'est-à-dire des personnes qui sont dont la condition sociale dépend en fait de cette racialisation négative. Donc, nous, on s'est dit, se réparer, c'est à la fois se réparer en tant que réparer la douleur ou l'injustice qu'on subit, et prendre soin de nous en tant que communauté de destin, et aussi autant de communautés spécifiques quand on, en l'occurrence, vu qu'on n'est pas des mêmes communautés. Donc c'est venu avec, je pense, des critiques de, justement, ou des remises en question de l'outil théorique dans les pratiques militantes qui pouvaient éluder cette question matérialiste.
Ouais, et il y a aussi l'aspect collectif aussi qu'on a essayé de mettre en valeur, l'aspect collectif dans le sens où nous, en tant que militante antiraciste, on se bat contre un certain système. C'est un système raciste, comme on l'a dit. On se bat contre le racisme systémique. Et ce qu'il faut comprendre dans l'analyse du racisme systémique tel qu'on on le dénonce, c'est qu'il y a toute une organisation qui a été mise en place, l'esclavage, la colonisation, pour mettre certaines personnes, donc les colonisés, les sujets coloniaux, dans des positions inférieures dans la société, et tout simplement les mettre en bas de l'échelle sociale. Et aujourd'hui, ça perdure à cause de ce qu'on appelle le néocolonialisme. Enfin, c'est pas le sujet, mais du coup, c'est pour contextualiser. Ah merde, pardon. Du coup, c'est pour contextualiser et nous, tel qu'on l'imagine, pourquoi on dit se réparer collectivement, c'est ce qu'on veut dire, c'est que en tant que communauté, l'émancipation, elle peut être que collective. En fait, pour nous, l'émancipation des individus. On est content quand une personne racisée arrive à avoir une position confortable et ne pas soucier de comment elle va payer son loyer, etc. Mais pour nous, c'est pas une fin en soi. Ce qui nous intéresse, c'est que la communauté puisse s'émanciper dans son entièreté. Et c'est pour ça que l'aspect collectif, on le met en valeur, parce que pour nous, faire du politique, c'est faire du collectif. Et je pense, ouais, c'est pour ça qu'on a aussi choisi cet intitulé-là. C'est vraiment la dimension collective. Et aujourd'hui, ouais.
Et aujourd'hui, on trouve que c'est, en tout cas, pas sur les questions matérialistes, trop mis en avant cet aspect collectif. Effectivement, comme le dit Daoud, on ne pense pas que si quelqu'un arrive à une position sociale confortable, ça prouve l'amélioration des conditions de l'ensemble de la communauté maghrébine, noire, etc. Et que en plus, ça élude le fait que on ne s'organise pas assez collectivement pour faire entre nous de la redistribution des richesses. Et le constat qu'on a fait avec Daoud, puisqu'on parle vraiment en tant que militante et qu'on analyse ça aussi au vu de pratiques, puisque ça fait des années qu'on milite, on se rend bien compte que certains outils théoriques qui ont été très importants nous dans notre parcours, parce que ça nous a permis de questionner des choses, ont pu être en tout cas tellement utilisés et redits que on en a perdu l'aspect essentiel pour nous. Et là je m'explique un peu, c'est notamment en fait c'est devenu voilà, une réussite individuelle ça vire à la politique de la représentation. Le problème étant que c'est pas effectivement si un arabe réussit que ça signifie que les arabes s'en sortent en France. Donc on commençait à voir que beaucoup aussi de militantes et militants se satisfaisaient de choses de l'ordre de la représentation dans l'espace déjà des médias, dans l'espace politique, parfois aussi même dans des partis qui peuvent être peut-être plus on va dire proches de nos idées politiques, même si pour notre part on n'a pas de parti ici en France qui représente nos idées, et aussi pour d'autres concepts comme par exemple prenons celui du self-care, qui a été important pour beaucoup de militantes et militants, en tout cas de notre génération avec Daoud. Et quand je dis notre génération, je dirais 2010, on peut-être à peu près ces années-là, jusqu'à 2015, 2016, etc. Je contextualise bien parce que c'est vraiment à ces époques-là que ces concepts de self-care aussi arrivent en France et sont aussi appropriés par les militantes pour parler aussi de... On a le droit de parler de nos traumas, on a le droit de parler du fait qu'on a besoin de prendre soin de nous dans une société qui ne nous représente pas et qui ne nous autorise pas finalement, à, notamment pour des questions de santé mentale. Sauf qu'on a bien vu que cet outil qui était pensé pour... pouvoir par exemple verbaliser des traumas a été vite investi de manière très individualiste pour témoigner seulement de son propre vécu individuel. Le problème étant, c'est que c'est pas seulement avec notre propre vécu individuel en le témoignant qu'on va pouvoir s'organiser collectivement, et que justement nous on questionne le fait que on parle de self-care, mais est-ce qu'on parle de justement la possibilité d'accès aux personnes racialisées négativement en France, d'accéder facilement à des praticiens pour soigner leur santé mentale. Donc ça c'était vraiment, donc on pense à des choses, mais finalement ces choses sont autorisées qu'à des personnes qui ont déjà l'espace d'esprit, la liberté, la possibilité parfois financière d'accéder voilà, un psychologue, tout simplement, ou à la possibilité d'avoir du temps pour penser à prendre soin de soi-même. Et c'est lié au fait que effectivement on n'est pas tous dans les mêmes conditions matérielles et que notamment le milieu militant est quand même beaucoup, comme le disait Daoud aussi, on n'est pas tous de la même classe sociale, donc on peut être effectivement tous issus d'une histoire commune qui est celle, hélas, de la colonisation et de l'esclavagisme, et donc de la mise de côté dans la société française. Pour autant, on n'est pas tous dans la même précarité ou dans le même confort. Et donc c'est aussi l'idée de se réparer collectivement et de redistribution, c'est comment on pense, nous, à redistribuer entre nous, d'un point de vue matérialiste, les compétences, les richesses qu'on peut avoir au sein de nos communautés pour effectivement pallier un peu à l'injustice dans laquelle on est.
Ouais, c'est ça, et que en fait, nous on part du postulat que l'État est défaillant. L'État devrait avoir un programme socialiste, l'État devrait s'occuper de ses de nous, tout simplement, de ces citoyens, et l'État ne le fait pas. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, maintenant qu'on sait que l'État ne le fait pas, qu'est-ce que nous on fait, comment on s'organise pour faire le taf d'un État, en fait. Et moi, quand je suis les mobilisations des étudiants à Paris 8, je vois très bien qu'on est sur la même longueur d'onde et juste grand respect. Quand je vois que dans les revendications des étudiants de P8, il y a aussi les questions qui concernent les étudiants, mais plus largement qui concernent les personnes précaires. Et je vois dans les revendications, il y a le fait que beaucoup de professeurs sont vacataires, et parmi les professeurs vacataires, il y a les professeurs racisés, et que les étudiants demandent pour ces professeurs-là qu'ils aient un statut pérenne, on est en plein dedans. C'est-à-dire que, moi, pour avoir été aussi à votre place, on est des étudiants précaires, on est fauchés, on est mal nourris. Je rappelle qu'il y a un an, il y a un étudiant maoré qui est mort de faim, ici en France, dans la France hexagonale, et du coup, quand t'es mal logé, mal nourri, fauché, et que tu dois étudier, ton problème, c'est certes la sélection universitaire, les profs vacataires, parce que ça fait partie de tout un ensemble, c'est tout ça, mais c'est aussi les revendications de comment je pourrais avoir accès à manger correctement, comment je pourrais être logé correctement, et voilà. On devrait pas risquer d'arrêter les études pour pouvoir survivre. Donc voilà. Que dire de plus là-dessus?
Oui, effectivement, on avait envie de citer cet exemple de l'AG des étudiants de Paris 8, des étudiantes et des étudiants de Paris 8, qui avaient donc proposé effectivement comme revendication, voter à l'AG, que les professeurs vacataires puissent obtenir un statut de titulaire, notamment parce qu'en fait, ça part à la fois de deux enjeux qui concernent la communauté telle que nous on l'entend. Les étudiants ont demandé à effectivement pouvoir participer au choix des textes étudiés par c'est les étudiants en genre, si je me trompe pas, n'est-ce pas Tam, qui est ici, qui ont proposé de participer et contribuer au choix des textes étudiés, notamment parce que certains professeurs leur demandaient carrément des bibliographies et donc d'avoir un droit sur une possibilité, en tout cas, de choisir une partie des textes qui concernaient notamment tout ce qui était des théories en genre et en histoire, en théorie décoloniale. Et à côté de ça, ils demandaient pas seulement en fait la possibilité de contribuer, puisqu'on les mettait de toute façon déjà à contribution sans les citer au corpus. Ils proposaient justement que les professeurs vacataires puissent avoir ce statut de titulaire, puisqu'ils contribuaient eux à les nourrir intellectuellement et qu'ils étaient satisfaits du cours de leurs professeurs, dont ils savent qu'ils sont en situation de précarité. Donc, dans un sens, ils pensaient à leur intérêt intellectuelles et à la fois ils ont bien constaté que ces professeurs qui les nourrissaient intellectuellement étaient dans des situations de précarité inadmissibles en France et dans l'enseignement dans un enseignement supérieur qui se dit de qualité. On peut pas mettre des professeurs vacataires dans de telles situations de précarité avec des contrats aussi courts et avec des fois peu de chances d'être renouvelés. Et notamment, nous, quand on disait qu'on avait besoin de critiquer certains concepts, on voulait aussi critiquer, par exemple, la méritocratie. Donc, dans le milieu militant, c'est assez admis qu'on n'est pas méritocrate, en fait. On rejette la méritocratie républicaine, qui, je le rappelle, a quand même été créée au même moment que, une grande partie des invasions coloniales françaises, hein, c'est-à-dire la méritocratie. En France, on mettait en avant la méritocratie pour les Français, alors que on colonisait toute l'Afrique. Et cette méritocratie, on sait bien qu'elle est pas réelle, puisque dans les faits, beaucoup de gens ne peuvent pas accéder à l'éducation, à un travail, et voilà. Donc c'est assez admis que la méritocratie républicaine, on la rejette. Pour autant, on se rend bien compte que dans les pratiques militantes, on est encore à se demander qui mérite d'intervenir à telle conférence, qui mériterait d'être publié à tel endroit, quelle personne pourrait... Et c'est toujours la question de, moi, si j'ai réussi, finalement, même d'un point de vue strictement militant, c'est parce que je le mérite. Or, nous, on se pose contre cette conception du mérite, où en fait, il y aurait donc des compétences et des gens qui seraient plus valorisés et donc qu'on mettrait pas en valeur aussi en fait les capitaux des personnes là encore les plus précaires ou les qui ont le moins accès à l'éducation, qui ont le moins d'accès aussi aux ressources militantes, à ce qui fait les capitaux militants parce que finalement on reconnaît pas non plus leur propre apport à la lutte. Donc nous voilà, on voulait aussi partir du principe qu'on a quand même aussi intériorisé des concepts bien franco-français, bien républicains, et que même si on prétend les rejeter, dans nos pratiques militantes, ou même parfois dans nos pratiques de lutte en règle générale, on a encore cette tendance à penser qu'on mérite les choses et qu'on mérite notre place parce qu'on a travaillé et parce qu'on a fait ceci ou cela. Donc avec Daoud, on se dit que si on part déjà du principe que il n'y a pas de mérite et qu'il faut redistribuer parce que finalement tout le monde mériterait d'être bien dans sa vie et d'être à l'aise en tout cas d'un point de vue matériel et même mental. Et si je dis ça, c'est parce que c'est moi dans dans mon parcours par exemple, j'ai eu l'occasion de publier, de travailler sur tout ce qui est les musiques d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Et ça, je ne l'ai pas appris dans les livres, je ne l'ai pas appris dans un cours, je l'ai appris avec ma mère en fait. Sauf que ma mère, socialement, c'est une assistante maternelle issue de la première génération d'immigrés tunisiens et personne ne pense que ma mère a ces connaissances-là. Moi, je suis reconnue pour ces connaissances que je dois seulement à ma mère parce que en fait, j'ai un bagage et les codes sociaux qui permettent de mettre en avant et que que ces ressources-là sur ces musiques soient reconnues comme étant intéressantes. Or, c'est ma mère qui les a, mais qui ne sera jamais reconnue dans la société comme étant détentrice de ce savoir-là, parce qu'on ne peut pas penser qu'une assistante maternelle, arrivée en France à l'âge de 22 ans, puisse connaître quelque chose sur les musiques classiques arabo-andalouses à l'époque médiévale. Or, ma mère le sait. Et c'est pareil pour des ressources comme les ressources linguistiques. Moi, j'ai pu bénéficier par exemple, dans mon accès au marché de l'emploi, au fait de parler arabe. Donc je sais que c'est pas le cas de tous les secteurs parce que c'est pas une langue qui est reconnue comme une langue de travail. Or, bon, dans le secteur dans lequel j'ai travaillé, c'était reconnu. Or, ma mère ou mon père, ils ont pas pu bénéficier du fait qu'ils étaient ultra bilingues et très très bons, voilà, très très bons en tout cas par exemple à l'écrit. Or, moi j'ai bénéficié d'un bilinguisme aussi bien à l'oral qu'à l'écrit par l'intermédiaire de mes parents. Et c'est ça aussi la méritocratie. Ça dépend en fait de finalement d'où on se situe sur le mérite. Voilà. Moi, je suis méritante. Ma mère, est-ce qu'elle est méritante? Elle n'est pas reconnue comme étant méritante de ce savoir. Or, c'était elle la détentrice de ces aspects-là, en tout cas de moi, ce que j'ai comme capital.
Ouais, je pense que ça pose aussi la question de la... Du coup, comme on parlait de redistribution, comment faire de la redistribution quand on est détenteur de... Ou justement, qu'on n'est pas détenteur de des capitaux qui sont considérés comme valorisants dans la société? Et nous, avec Agère, du coup, en tant que militante, on réfléchit beaucoup à... parce qu'on est d'accord que la redistribution, c'est... y a un rapport qui est plutôt vertical. C'est quelqu'un qui détient un capital et qui va redistribuer ce capital. Donc si c'est un capital économique, un capital social aussi, un capital culturel. Et comment on fait dans une société où l'État est défaillant, où on fait partie des populations les plus précaires en France, qu'est-ce qu'on pourrait redistribuer? Nous, on voit la redistribution plutôt comme quelque chose de circulaire, d'horizontal. Ce qu'on propose, c'est la valorisation de nos expériences, de nos savoirs, donc des savoirs légitimes ou illégitimes. Parce qu'en France, quand on dit le savoir, c'est l'université, bac plus 5, nanani, nanana. On n'est pas tous bac plus 5, on n'est pas tous doctorants, on n'est pas tous... voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, c'est valoriser nos savoirs. Agère, tu disais tout à l'heure que toi, un des savoirs que t'as transmis ta maman, c'est notamment la musique et aussi la langue arabe. Et du coup, aujourd'hui, tu fais des productions. Enfin, voilà, pour ceux qui connaissent ta cette émission de podcast qui est passionnante, Vintage Arabe, où tu fais partager tout ça. Donc, comment on fait aujourd'hui? Donc, déjà, c'est se valoriser soi-même, se dire. Ok, donc moi, le capital économique, je l'ai pas. Je pourrais pas vous donner une thune. Ok, mais par contre, j'ai un tel savoir. Et ça, c'est le faire circuler. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, personnellement, je suis juriste de formation. Ce que je vais faire, c'est j'ai toujours eu l'habitude d'écrire des courriers. J'ai appris à le faire, des courriers juridiques, administratifs et tout. Et aussi, ça a commencé tout simplement. La rédaction de courriers, remplir des papiers pour à la place de mes parents en fait dans l'administration. Donc comment je vais redistribuer? C'est ce que je pourrais proposer. Ok, je peux pas vous donner une thune parce que j'ai pas un copec, mais par contre je pourrais vous aider à écrire des courriers à des administrations, à des juridictions, à ceci, à cela. Et la redistribution, du coup, quand on fait partie du bas de l'échelle sociale, elle ne peut être que circulaire comme ça. C'est plus une question de partage de savoir et de connaissances, faire circuler son réseau, son capital. Il suffit qu'on ait une petite place dans une structure, si on peut embaucher des personnes ou faire venir des stagiaires. C'est comme ça, en fait, qu'on peut survivre. Tu veux ajouter quelque chose, peut-être?
Oui, complètement. Nous, on pense pas à la question en fait du réseau comme du networking dans le monde néolibéral dans lequel on est. En fait, on est plus dans une question de solidarité qui s'inspirait déjà des pratiques de groupes politiques. On en parlera après, ou en fait de nos cultures, que dans l'idée qu'on fait du réseau pour faire du réseau, pour connaître des gens dans tel secteur d'activité. Après, Daoud l'a bien dit, on imagine ça comme quelque chose de circulaire, où chaque compétence pourrait être mise en valeur, mais aussi en fait se dire, peut-être que j'ai des ressources qui peuvent servir à des personnes. Donc ça passe de, je sais, corriger un CV, et en fait c'est pas si évident de ça, de faire un CV reçu comme un... bien en fait par les recruteurs, d'autant plus quand on a les noms de famille qu'on a, et aussi ça peut passer par la capacité d'écrire des courriers, la capacité aussi mine de rien en fait à être communautariste. En fait, moi j'ai une place dans telle structure, j'ai une possibilité de mettre un CV sur le haut de la pile, je le mets en fait, et je suis pas en train de me poser la question mais en fait je fais du copinage. En fait, personnellement, j'ai une expérience professionnelle et dans mon secteur d'activité dans lequel je travaillais, en fait, rien ne se faisait sans réseau. Et les personnes qui ont le moins de réseau, c'est les personnes noires et arabes, clairement. Donc, en fait, on n'a pas de réseau à l'intérieur, donc personne ne peut appuyer nos candidatures. Ouais, racisé, mais du coup, je prenais noirs et arabes spécifiquement sur mon secteur d'activité. Bon, je vous raconte pas ma vie personnelle, mais voilà. Et en tout cas, il y a vraiment, pour les personnes racisées, aucun réseau à l'intérieur, généralement. Et pourtant, c'est bien, moi, après avoir réussi à passer de l'autre côté et être employée, j'ai bien compris qu'en fait, ça marche par réseau, et que personne ne voit, les personnes blanches ne voient pas ça comme du copinage, que de appuyer une candidature, mettre un CV en haut de la pile, recommander une personne. Or, nous, on prend moins ce parti-là, mais c'est en fait en le faisant le plus qu'on arrivera peut-être à dénouer des problèmes pour certains de nos proches ou pour des connaissances. Des connaissances, donc ça n'engage finalement à rien, mais on a toujours cette insécurité de se dire qu'on fait du communautarisme, où mince, j'ai ma place, je suis déjà content d'être là, je vais peut-être pas me la ramener trop. Or, au contraire, nous, on revendique le droit d'être communautariste. Puisque la société ne nous donne pas une place égalitaire, alors on fera du communautarisme.
Ouais. Et que dire d'autre? peut-être parler aussi de nos inspirations aussi, parce que c'est difficile d'avoir des idées, d'être créatif dans notre manière de militer et pour trouver des solutions, parce que souvent voilà, quand on est confronté à des problèmes type comment je vais me nourrir, comment je vais me loger, ça vient après les histoires de travail, d'école. Voilà, notre priorité c'est la survie. Et bah, en tant que militante, moi, ce qui m'a beaucoup inspirée, parce que je réfléchis beaucoup et je pense à Gère aussi sur comment dans notre pratique militante on peut faire de la solidarité. Et j'ai remarqué en discutant avec des militants, souvent c'est un peu mal vu d'associer le politique avec le social. Souvent on distingue les deux. Il y a nous on fait du politique, eux ils font du social. Voilà, la question de la solidarité, souvent c'est mal vu, ça fait charité, ça fait ouais, c'est un peu mal vu. Et moi au contraire, je revendique de faire du politique avec le social. Pour moi, ça peut pas se on peut pas distinguer les deux. Et si on fait la différence entre les deux, on loupe forcément quelque chose. Quand on est un étudiant précaire, un militant précaire, quand on travaille, je sais pas, on est ouvrier, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de militer. Et on doit avoir la possibilité de militer. Et moi, un des groupes qui m'a inspirée, c'est, je pense que vous le connaissez tous ici, c'est le Black Panther Party for Self-Defense, le parti de la Panthère Noire pour l'autodéfense. Donc les Black Panthers, quoi. Et eux, ils avaient, ben voilà, ils sont, il y a un des cofondateurs qui est d'inspiration marxiste, et donc ils avaient dans leur programme, sans doute vous connaissez ou pas, le programme de distribuer des petits déjeuners aux élèves, aux enfants. Donc l'idée, c'est pour pouvoir être fort, pour pouvoir suivre les cours, pour pouvoir être attentif en cours. Ils ont remarqué que chez les populations noires, qui étaient aussi les plus précaires aux États-Unis, enfin parmi les plus précaires bien sûr, des people of color, bah, que beaucoup d'enfants allaient le ventre vide à l'école, ce qui est voilà, horrible. Et donc ils ont décidé de distribuer des petits déjeuners. Alors je dis pas qu'en France on devrait se mettre à distribuer des petits déjeuners, à faire les voilà, mais je dis qu'on devrait s'inspirer de ces les inclure en fait dans notre programme politique, dans notre agenda politique plutôt, sortir un peu de la théorie et de ne pas hésiter à faire de la solidarité et d'aller dans le social et de voir qu'est-ce qui pourrait nous quels sont les problèmes de notre communauté et comment y remédier, et vraiment ne pas hésiter à franchir la barrière du social.
Oui, comme dit Daoud, en fait, on sent qu'il y a une distinction claire actuellement dans les milieux militants antiracistes, hein, de l'antiracisme politique, je précise, entre effectivement le purement politique, ce qui serait le purement politique, et ce qui serait le social, et voilà, presque un peu humanitaire, et la charité. Et d'ailleurs, quand on constate ça, ça n'a pas toujours été le cas, en fait, dans les pratiques militantes, en tout cas de l'immigration, ça n'a pas toujours été aussi frontalement séparé, ou en tout cas délaissé, et c'est plus, en fait, finalement, le marché associatif et humanitaire se crée en tant que marché aussi, c'est-à-dire en tant que association qui emploie des personnes, qui répondent à des appels à projets, donc à des financeurs, plus en fait cette partie très sociale était accaparée par des associations, donc là purement associatives et humanitaires. Or dans les pratiques, comme le souligne Daoud, il y a des formations politiques qui ont clairement mis en place des programmes sociaux envers leur communauté pour pallier à cette précarité qui peut exister. Donc il y a les Black Panthers. Je sais que le mouvement de travailleurs arabes a pu à des moments le faire, notamment sur toutes les questions juridiques envers les personnes immigrées, avant que ça devienne des grosses associations qu'on connaît actuellement qui prennent en charge le traitement des dossiers et la permanence juridique. Ben en fait, c'était souvent nos communautés qui aidaient les leurs à se battre pour l'obtention des papiers. Cela à côté, enfin, en même temps que de lutter en termes, c'est-à-dire en produisant de la théorie politique, en produisant de la matière politique, aussi en manifestant. Mais il y avait aussi une prise en charge réelle des questions de papier. Et c'est des pratiques, quand on dit qu'on veut s'en inspirer, on veut s'inspirer de ces groupes politiques, mais aussi finalement des pratiques qui sont celles de nos communautés Moi, j'ai toujours vu mon père qui n'a pas beaucoup, voilà, il n'a pas de l'argent pour aider les personnes pour financièrement, sachant qu'il a une famille aussi à prendre en charge dans notre pays. Mais par contre, il avait la compétence de bien connaître l'administration française et ses rouages, parce qu'il était déjà arrivé avant certains de ses amis, et donc il a mis à contribution cette connaissance de l'administration française, qui est une oppression en fait. Surtout pour les personnes immigrées, c'est une oppression. Tout est fait pour rendre la vie impossible aux personnes qui n'ont pas le statut de français. Et donc, il avait cette compétence-là et celle de maîtriser bien le français. Donc, il a pu, tout au long de sa vie, encore aujourd'hui, aider des personnes qui, eux, n'ont pas soit la compétence du français, soit n'ont pas la connaissance qu'il a des règles administratives. Donc, c'est vraiment concrètement ce type de solidarité-là. Elles sont à nous, en fait. C'est nos moyens de lutte. Et il faut qu'on les investisse parce que c'est ça de faire de la solidarité circulaire comme on l'imagine. C'est vraiment s'inspirer, c'est pas de la solidarité au sens de la charité, c'est pas de se rentrer dans un modèle libéral, mais au contraire de reprendre les outils qui existent et qui ont permis d'ailleurs à nos communautés de survivre jusqu'à présent.
Ouais, et pour donner par exemple des exemples d'outils concrets de solidarité qu'il y a dans les communautés non blanches, racisées. Par exemple, je sais que ça se fait beaucoup en Afrique subsaharienne, c'est le concept des tontines. Le concept des tontines, pour ceux qui l'ignorent, c'est une association de personnes qui se regroupent soit parce qu'ils viennent de la même région, soit parce qu'ils viennent de la même ethnie, même communauté. Et c'est un groupe de personnes qui vont en fait cotiser, donner une certaine somme d'argent, la période, ça dépend, ça peut être chaque mois, ça peut être chaque trimestre. Et en fait, une personne du groupe reçoit la cotisation quand c'est son tour, et en fait ça a permis aux communautés subsahariennes de mener à bien des projets, que ce soit la construction d'une maison au pays, que ce soit l'acquisition d'une voiture, que ce soit le financement d'un fonds de commerce, enfin tout ça c'est enfin moi je parlais tout à l'heure des Black Panthers, donc ouais, ils m'ont inspiré, ils sont aux États-Unis, mais plus proche de moi c'est l'Afrique. et voilà, ça c'est des outils qui sont pas valorisés parce qu'ils sont voilà, tout ce qui concerne l'Afrique c'est vu négativement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit racialisé négativement, hein. Et pourtant, je pense que c'est des outils qui sont importants, et c'est bien d'interroger, je pense, nos parents, nos grands-parents, nos tantes, pour savoir comment ils ont fait pour survivre. Si aujourd'hui on est là, que nos parents, nos ancêtres, pardon, ont survécu à l'esclavage, au colonialisme, c'est bien grâce à des outils. Et peut-être pour les tontines, je sais pas comment ça se passe en Afrique du Nord.
Ouais. D'ailleurs, tu sais, par rapport aux banques. Ouais. Que ça échappe
ouais, effectivement, les cotisations entre individus, ça évite la spéculation des banques, ça évite les intérêts aussi que demandent les banques quand on va faire un prêt, etc. Donc,
ouais, ça ouais. Permet d'échapper à certains, justement, c'est des personnes qui peuvent pas prétendre de toute façon à prendre des prêts généralement. Donc ça fonctionne aussi. Le système de la tontine permet en fait à des personnes qui ne pourraient même pas prétendre à avoir un prêt à la banque d'obtenir des sommes d'argent. Et ça existe effectivement aussi en Afrique du Nord, notamment chez les Kabyles. chez les Kabyles qui, effectivement, eux cotisent par village en règle générale. Donc, et ça veut dire que même en France, donc quand on est originaire du même village, on cotise. Et ce qui permet, par exemple, de débloquer une somme d'argent importante pour des moments d'urgence, par exemple, typiquement le rapatriement des corps. Donc ça existe chez les Kabyles, ça existe aussi dans le sud de la Tunisie. Je pense que ça existe aussi ailleurs, en Algérie. C'est assez connu en France pour être quelque chose...
En
Afrique subsaharienne. Mmh. Et pour l'Afrique du Nord, c'est vrai que l'exemple des Kabyles est assez parlant parce que c'est vraiment organisé par village. Et donc, ça permet de débloquer cette somme d'argent qui permet le rapatriement des corps puisqu'il n'y a pas de prise en charge pour le cas des Algériens. Contrairement, par exemple, aux Tunisiens. Les Tunisiens, le consulat va prendre en charge un rapatriement de corps. C'est pas nécessairement le cas pour les Algériens. Du coup, ça permet de rapatrier rapidement et de payer les billets d'avion pour la famille endeuillée.
Ainsi s'achève un petit peu brutalement la conférence d'Ager et Daoud. Nous vous prions de nous pardonner pour cette coupure. Il restait à peu près un quart d'heure
de conférence qui donc n'apparaît pas sur l'enregistrement et qui dans la période actuelle est trop difficile à reconstituer pour le moment, mais on tâchera d'en faire un petit bonus à un moment ou un autre avec Ager et Daoud. Et puis il y avait bien évidemment les excellentes questions du public qui malheureusement elles sont perdues pour les personnes qui n'étaient pas là. Les deux conférences suivantes devaient être par le collectif Case Rebelle en avril et Ariella Azoulay en mai. Bien sûr, vu les circonstances, celles-ci sont sans doute repoussées, peut-être même jusqu'en septembre, nous verrons bien. Un grand merci pour votre écoute et très bonne journée ou soirée à vous. Prenez soin de vous et à bientôt.